Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Cette année, nous célébrons les 60 ans de la restauration du diaconat permanent. Des hommes, mariés ou non, sont appelés, non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du service. Quelle place tient leur couple, leur famille, dans cet engagement ? Et diaconat permanent, comment ces deux appels à la sainteté se nourrissent-ils ? Quelles difficultés peuvent être rencontrées dans la coexistence de ces deux engagements ? Quels fruits ces deux sacrements portent-ils sur le couple, l'Église et le monde ? Nous en parlons avec Guy et Marie-Madeleine de Belair. Bonjour.
Bonjour.
Et Daniel et Anne Fasserias. Bonjour.
Bonjour.
Merci de votre présence aujourd'hui sur Radio Présence. Voilà, on fait des jeux de mots. On va commencer par l'appel au diaconat que vous avez reçu, Guy de Belair et Daniel Fasserias. Comment s'est-il passé et quelle a été votre réaction, Guy ?
Alors, moi, c'est vrai qu'avec Marie-Madeleine, on a un peu fait une relecture de tout cela. Et c'est vrai que moi, c'est mon curé qui m'a appelé à l'époque, c'était le père Joseph Bavura, qui m'a appelé, je m'en souviens très bien, parce que c'était au mois de juillet, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu pourrais faire un discernement au diaconat permanent ? Et alors je lui ai dit, alors c'est ma réaction a été tout de suite de lui dire, ah non, mais attends, je ne veux pas être le vicaire du curé, hein. J'étais quand même un peu sur la réserve, dès là. Et après ça, je me suis rendu compte, mais ça a été un cheminement très lent, et je crois que la sagesse de l'Église, c'est de dire, mais on prend son temps. Il y a eu 2 années de discernement.
Oui, nous allons en parler,
et
de ce
voilà.
Discernement.
Donc, alors, ensuite, j'en ai parlé à mes enfants, mais pas tout de suite. Je crois, au bout de 2 ans, j'en ai parlé. Et mon fils a eu la même réaction. Il m'a dit, mais papa, alors tu vas être le curé. J'ai dit, mais non.
Ou
non,
le sous-curé.
Je l'ai rassuré. Je lui ai dit, non, pas du tout. Voilà. J'en ai parlé rapidement à Marie-Madeleine, ça c'est sûr.
Parce voilà, que... et je vous demanderai effectivement votre réaction. Daniel Fasserias, comment avez-vous reçu et comment avez-vous été appelé ?
Moi, ça a été simple. C'était à Lourdes. À l'époque, nous habitions dans un petit village à côté de Lourdes qui s'appelle Aussin. Et le curé de la paroisse, qui était en fait le prieur, le responsable d'une communauté des fraternités monastiques de Jérusalem, le père André Cab, qui un jour, il m'avait invité à déjeuner à la communauté. Et puis avec son... il était toujours comme ça.
À se frotter les mains.
Spontanément, il me dit... Et c'était le jour de la Saint-Joseph. Et il me, à 99, il me dit, mais pourquoi tu ne serais pas diacre, hein?
Vous avez été surpris
oui,
par la question?
Oui, non, parce qu'en en fait, on était très proches, hein, avec eux et... Puis on se voyait, on avait créé une petite à l'époque fraternité ou de prière et tout ça, donc ça m'a pas surpris. Alors du coup, Anne n'était pas avec moi, elle était dans les îles là à ce moment-là. Donc je lui ai, on venait de sortir d'un gros spectacle qu'on avait fait à l'île de la Réunion, c'était sur l'esclavage. C'était et puis on venait de perdre un de nos meilleurs amis qui était le un peu une des chevilles ouvrières de ce spectacle. Donc on était, et c'est curieux que cet appel soit arrivé dans ce moment-là, comme une réponse au travail et aussi à cette amitié, qui est un homme très engagé. Qui, et, voilà, donc,
et une nouvelle naissance aussi, enfin
une nouvelle naissance,
appel.
Voilà. Ouais. Et après ça a été long parce que on a discerné, on a tout fait. L'évêque à l'époque c'était Jacques Perrier.
L'évêque de Lourdes.
Voilà, et... il se trouvait que quand même, c'était difficile pour lui d'envisager. Alors, on avait commencé la formation, etc. Donc, on a dû interrompre par nos activités. C'est-à-dire qu'on partait dans tous les sens, enfin, pas dans tous les sens, mais par notre métier. On produisait beaucoup de spectacles, notamment dans les îles. Et donc, on a suspendu pendant un certain temps, là, et on a repris un peu plus tard. Enfin, voilà, c'est en gros... Anne le dira peut-être un peu mieux que moi.
Marie-Madeleine de Belair, comment avez-vous réagi à cette annonce que vous a faite votre mari Guy, à cet appel ?
Je voudrais ajouter qu'à l'âge de 40 ans, on nous a déjà demandé, cet appel nous a été déjà formulé par le prêtre où nous étions à Revel. Et à ce moment-là, on était trop jeunes, Nos enfants étaient petits, on ne savait pas vraiment à quoi ça correspondait. Et on a dit, mais non, pas nous, surtout pas nous. Donc le prêtre n'a pas trop insisté. Et quand c'est revenu, là vraiment, on s'est dit,
vos cœurs étaient prêts.
Le cœur était prêt. Et moi, je lui ai dit, écoute, je me suis mariée avec toi aussi parce que tu avais des très fortes convictions chrétiennes. Et je ne vois pas de quel droit je t'aurais dit, tu es chrétien un petit peu, mais pas trop. Voilà, je te limite, je te dis non parce que ça serait trop. Non, je me suis dit, il y avait le sacrement du mariage et cette ordination pour moi était évidente par les convictions de Guy. Et par notre engagement, parce qu'en fait, depuis qu'on est mariés, on a toujours été engagés dans l'Église, divers mouvements, et donc je ne voyais pas de frein à son engagement.
Pas de raison de vous opposer. Anne, Facerias.
C'est amusant d'écouter les...
Oui, oui.
Alors, ben nous, c'est encore un petit peu différent, mais c'est vrai que quand Daniel m'a parlé de l'appel que lui avait lancé le père Cab, moi j'étais à l'île de la Réunion, mais tout de suite, j'ai dit, mais c'est génial. Et tout de suite dans mon cœur, puisque moi, je vis à l'île de la Réunion, au Carmel, donc dans une ambiance monastique, de prière, etc. Et tout de suite, j'ai dit, mais merci mon Dieu, parce que c'est une réponse pour nous à notre chemin de couple aussi. Moi, j'avais toujours souffert que, justement, comme le disait Daniel, par nos multiples voyages et déplacements, on ne pouvait pas s'enraciner dans un mouvement ou dans une communauté. Et moi, ça me manquait vraiment, profondément. Et donc, ce chemin diaconal, j'ai vu la vision tout de suite. Mais oui, c'est pour nous. Voilà. Alors après, comme Daniel l'a dit, il y a eu beaucoup d'arrêts, de reprises. Enfin, il y en a eu deux ou trois. Mais je crois qu'in fine, à la fin... c'était ce mouvement de la diaconie de la beauté qui est né en octobre 2012 à Rome, au Vatican, à l'occasion du synode de la nouvelle évangélisation. Diaconie de la beauté, diaconat.
Appel au diaconat.
Appel au diaconat. Ouais. Et donc je porte ce mouvement, j'ai envie
tout
de dire, à
bras-le-corps.
Ouais. Et là, donc, Monseigneur Le Gall, qui était l'accompagnateur de la diaconie de la beauté, et mon accompagnateur, je lui dis, mais c'est pas possible, on peut pas développer une diaconie de la beauté si on ne termine pas notre cheminement diaconal. Voilà, alors ça c'était en, je sais plus, 2000, voilà. On a dû donc déménager parce que nous, comme Daniel le disait, nous habitions près de Lourdes. Donc on a dû déménager pour se rapprocher du diocèse de Toulouse. Et Monseigneur Le Gall a dit, on y va. On a dû rencontrer le père Gagnard que nous ne connaissions pas à l'époque. Et donc, il y a eu aussi un chemin. Voilà. Et moi, donc, j'étais plutôt à dire, oui, allons-y.
Allons-y, fonçons.
Fonçons, terminons ce chemin diaconal. Parce que, voilà, ça nous aidera dans notre diaconie de la beauté aussi. Et c'est vrai.
Et on a l'impression que finalement, votre période de discernement a été plutôt... elle a été, bon, certes interrompue, vous disiez, mais oui. Finalement, elle a été facile, non? Est-ce que c'était évident? Vous vous êtes pas posé 15 fois la question en disant...
Non. Ah non, jamais.
Je suis diacre ou je n'y suis pas.
Non. Et en fait, on a eu deux groupes de discernement. Je prends la main. Puisqu'on avait commencé à Lourdes, donc on avait été discerné déjà, on avait fait les 2 ans de discernement à Lourdes. Mais ici, enfin, ça a été... Parce qu'on avait, nous avions fait un peu de formation. Quand on a repris, même si on n'a pas refait de discernement, il a fallu... créer un groupe à nouveau pour vérifier si la reprise était bonne.
Oui.
Et on a repris, je crois qu'on a repris une troisième année, je ne me rappelle
plus. Oui, on a sauté une année en fait pour justement rattraper toutes ces années d'absence ou d'arrêt. Voilà.
Mais disons que ça a été confirmé des deux côtés, des deux fois, quoi.
D'accord. Guy et Marie-Madeleine de Belair, cette période de prédiscernement qui dure 2 ans, comment l'avez-vous vécu?
Alors moi, je veux dire, pour moi, ça a été une continuité par rapport à la liturgie des heures. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est que lors de la première séance de discernement, la première réunion, ça c'était à Sainte-Philomène, dans le quartier des Jardins, à Toulouse. Et je me souviens, en sortant, Marie-Madeleine me dit, allez, il faut qu'on aille à la librairie, là, il faut acheter le livre, le PTP.
Le PTP.
C'est-à-dire...
Ça veut dire quoi?
Je ne sais plus le terme PTP.
La prière du temps présent.
Prière, voilà.
Ah oui, pour
prière
suivre du temps la présent. Liturgie des heures.
Pour faire pour suivre la liturgie des heures. Mm. Et alors, je me suis dit, mais dis donc, elle est aussi engagée que moi, c'est formidable. Et moi, j'avais commencé déjà un peu la liturgie des heures avec Magnificat. Et je dois beaucoup à Magnificat.
On peut peut-être préciser.
C'est la revue Magnificat.
Pour les auditeurs qui ne sont pas très familiers à ce terme de liturgie des heures, en quoi ça consiste?
Alors, ça consiste quand on est appelé au diaconat permanent, on célèbre la prière de l'Église à trois moments de la journée.
Obligatoire.
C'était même obligatoire, c'est très important. Et on le fait au moment des laudes, le matin. Et ensuite, on a le soir les vêpres. Et puis ensuite, en fin de journée, vers 9h du soir, les complis.
Et voilà. Le milieu du jour, si on peut.
Et le milieu du jour, on peut. Et même, ça, je dirais que ça fait beaucoup de bien de le dire, pour reprendre un peu du souffle de l'esprit. Ben c'est bien en milieu de journée, à midi. Moi, j'aime bien le faire à midi aussi. Mmh. C'est plus court, ça dure un quart d'heure à midi, alors que les vêpres, les laudes, les vêpres, c'est plus long. Ça, si on les fait bien,
une demi-heure. Il faut compter une demi-heure. Marie-Madeleine, vous avez aussi pris à bras-le-corps cet engagement de dire la liturgie des heures.
Alors d'abord, je voulais pas qu'on attende une journée de plus. Donc on a acheté le livre le soir même, et ce qu'on tâche de faire, c'est le soir de prier ensemble la liturgie
pour
des heures.
Les complis.
Voilà, les complis, exactement. Mm. Mais nous, en tant qu'épouse de diacre, nous ne sommes pas obligés de réciter les vêpres. Les vêpres, les complis,
la
liturgie des heures.
Et sur ce temps de discernement de 2 ans, comment l'avez-vous vécu?
Alors,
pour moi, facilement, mais j'étais un petit peu surprise que ceux qui étaient avec nous dans notre année ont arrêté. Ça me questionnait. On était 3.
Un discernement.
Oui.
Ont
arrêté.
Il n'y a que vous qui êtes
resté. Qui sommes par le hasard, je ne sais pas.
Non, pas.
Et notre ordination, Guy était seul.
Oui, je me rappelle. Oui,
voilà,
je me rappelle
que les
très bien. C'était à la Dalbad.
Oui, à la Dalbad.
Je me rappelle très
bien.
Du temps du Covid. Oui, je me rappelle très bien.
À aucun moment, vous n'avez eu de crainte en tant qu'épouse que votre mari ne soit plus à vous, ne soit plus disponible parce que happé par les activités demandées pour l'Église, Anne?
Non, enfin alors, moi, pas du tout.
Non, c'était pas une crainte.
Non, parce qu'avec Daniel, on a déjà une vie... un peu indépendante dans le sens où on répond à notre appel autour de l'art et de la spiritualité. Donc cet engagement en église à monter tous ces spectacles sur la vie des saints et tout ça. Donc on a vraiment une vocation propre chacun qui se complète et qui, par notre engagement de diaconal, se renforce. Et donc moi je trouve ça merveilleux.
Oui, c'est merveilleux. Voilà. Guy, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, moi je voulais ajouter quand même que je suis quelqu'un qui est assez généreux dans mon don et je me dis, mais attention, il faut garder la mesure aussi. Et il faut faire attention. Le sacrement de mariage est quand même important. Et il est même, on nous l'a dit en formation, il est premier, attention. Hein. Donc pour moi, un des critères très importants dans mon cheminement a été de dire, mais je veux que ma femme soit heureuse, hein. Il faut que je le vois. Donc il faut que je fasse attention. Il faut faire attention. Alors, je voulais dire une chose, moi, pour moi, en tout cas, pour moi, ça a été... c'est pour ça que c'est dans la continuité du sacrement de mariage. C'est que je pense que le diaconat, le Seigneur est venu me sauver là aussi, hein, et j'étais plus attentif à la vie conjugale et à la vie familiale. Je me suis rendu compte que j'étais plus attentif à des choses à faire, les petites tâches, comment aider mon épouse.
Sur les tâches matérielles.
Sur les tâches matérielles aussi, voilà. Mm-hmm. Et donc, et d'ailleurs, je pense que c'est un des critères dans le discernement. Si l'épouse voit son mari la délaisser, et ça ne va pas marcher. Parce qu'elle a elle le dira bien, elle a un oui à, un oui, oui. À dire.
Sans le oui de l'épouse, il ne peut pas y avoir de diaconat.
Il n'y a pas d'ordination. Il n'y a pas de oui, il y a pas, puisque le premier mot de l'ordination, c'est à l'épouse qu'on le pose.
Oui. Oui, tout à fait.
On présente le diacre, et puis après on demande à l'épouse, êtes-vous d'accord afin de donner son oui. Et c'est à condition du oui qu'on est ordonné. Du oui de l'épouse.
Oui.
Et la question du oui
on
est
ne
posée.
Ne peut pas s'en passer.
Bien en amont.
Plusieurs fois.
Et plusieurs fois. Discernement aussi. Voilà. D'accord.
Moi, symboliquement, pour le rituel, c'est fort. Ça.
Ouais, c'est fort.
Ce oui du diaconat est toujours en résonance depuis le début avec le oui de Marie.
Ah oui.
Tout le temps. J'ai toujours vécu ce oui. Toute petite, à l'ombre de la Vierge Marie, quoi. Mais parce que si Marie n'avait pas dit oui,
Il n'y aurait pas.
Exactement, comme tu dis.
Il n'y aurait pas. Alors, après cette période de prédiscernement, il y a une période de formation qui dure quand même 7 ans, 5 ans ?
Non. Alors, 6 ans.
Oui. 6 ans.
6 ans.
Non, il y a 6 ans.
3 ans plus d'enseignement théologique, biblique. Et puis 3 ans qui sont plus dans la pastorale.
Avec un peu de pratique aussi.
Avec la pratique, voilà.
Comment avez-vous vécu cette formation ? Parce que là aussi, il faut préciser que l'homme et la femme, les époux, suivent la même formation.
Oui. Quelquefois, on est séparés. Quelquefois, elles avaient leur propre formation.
Oui. Oui, c'est vrai.
Et pour quel domaine, par exemple ?
Quand on nous formait à l'hôtel ou des choses
Et nous, pour se retrouver en tant qu'épouse de diacre, pour en parler.
Il y a eu plusieurs rencontres d'épouses de diacres.
Il y a une petite fédération.
Nos maris n'étaient pas conviés.
Et vous avez un petit groupe là.
Ça s'appelle les diaconettes.
Les diaconettes.
Oui. Et qui continuent.
Oui, qui continuent.
Voilà.
Donc il y a un lien d'amitié qui se tisse entre les épouses de diacres.
Avec une retraite une fois par an.
Voilà. Oui. On propose des animations, des rencontres, des petites retraites.
Qu'est-ce que ça vous a appris, cette formation ? Puisque c'est quand même un long temps. Comment ça vous a affermi dans votre foi et puis aussi dans votre relation conjugale, Guy et Marie-Madeleine ?
Alors moi, j'ai trouvé très important pour moi de restituer les cours à l'aide du devoir qui nous était demandé. C'est-à-dire qu'on avait un week-end par mois et à la suite de ce week-end, il nous était demandé de rapporter ou de restituer les enseignements. Les épouses de diacre n'étaient pas obligées de le faire, mais moi, je trouvais que c'était important pour retenir, de relire les enseignements, de piocher dans un livre ou autre, et de faire le devoir. C'était pour moi très important, donc je l'ai fait.
Mm-hmm. Guy, vous voulez
compléter ? Oui, et ça a été parfois l'occasion de parler ensemble du sujet. Il y avait des thèmes qui étaient plus difficiles, donc on a partagé un petit peu nos lectures. Mais ça a été un long temps. Hein. C'est vrai que je me souviens quand même à la fin de la quatrième ou cinquième année, c'était le temps est long quand même. Mais je me disais, c'est la sagesse de l'Église. Il ne faut pas presser, presser les choses. C'est la sagesse de l'Église. Et donc, il fallait ce temps-là de maturation. Hein, c'était important. Et donc, je voulais dire aussi quelque chose qui m'avait frappé aussi, c'est que Marie-Madeleine n'arrivait pas du tout à chanter. Elle avait un blocage très fort. Et moi, je l'encourageais, je lui disais, mais écoute, c'est pas grave. Mais j'avais envie que quand on psalmodiait, qu'elle puisse aussi prendre sa part. Et un jour, j'ai senti qu'il y a eu un déblocage.
Ah.
Et elle a accepté de chanter. De psalmodier à sa façon, et maintenant on arrive à psalmodier ensemble.
En dialogue alors ?
En dialogue,
ouais,
voilà.
C'est beau ça. Ouais.
Moi ça m'a vraiment profondément touché et le blocage a été levé grâce au Seigneur.
Grâce au Seigneur. Sur ce temps de formation, Daniel et Anne, qu'est-ce que ça vous a apporté personnellement et en couple ?
Moi ça m'a beaucoup apporté avec une petite déception liée à l'activité du travail et du développement de cette diaconie de la beauté qui m'a parfois empêchée de vivre davantage pleinement ces formations. J'aurais aimé relire les notes, comme tu as dit, Marie-Madeleine, méditer, approfondir, lire la Bible, faire des tas de choses qui sont très importantes, mais Donc ça, c'est une petite déception. Mais par contre, je voulais dire que nous, on a approché le diaconat dans plusieurs diocèses. Et vraiment, le diocèse de Toulouse est merveilleux au niveau de, du sérieux, au niveau
de la profondeur,
même, de la rigueur. Oui.
Et de la structure.
Et ça, c'est vraiment... moi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que, justement, on se rend compte qu'il y a encore des diocèses où, pardonnez-moi l'expression, mais ça flotte un peu. On se cherche, quoi. Il y a des diocèses qui se cherchent et voilà, chacun a son chemin. Tous les diocèses ne sont pas gros comme Toulouse. Et puis, Toulouse fédère aussi tous les
diocèses de la province.
Donc, évidemment, ça fait une véritable ossature qui, moi, en tous les cas, m'a fait du bien. Parce qu'on avait vraiment l'impression de...
On
montait dans un bateau, mais avec un...
Solide.
Avec des différences énormes. Enfin, de régions, en fait, puisqu'ils venaient d'autres départements, d'horizons professionnels très différents. Ce que je trouve, par exemple, pour avoir parlé avec des diacres de Paris, à Paris, c'est très scolaire, en fait. C'est très universitaire. Ils prennent des cours. Et puis, il n'y a pas cette dimension fraternelle que nous avons vécue. Et surtout, ce qu'a très bien expliqué Guy, c'est-à-dire donc, toutes les premières années qui sont une remise à niveau ou alors une formation théologique, et la deuxième partie qui est plus ancrée dans l'expérience et dans la pratique. Mmh. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui d'ailleurs nous a soudés entre nous, entre les... candidats, enfin, comment on appelait ça, les apprentis, diacres, ça nous a vraiment soudés. Et en même temps, ça nous a, quand on se retrouve en paroisse, on n'est pas démunis parce qu'on a véritablement les réflexes d'une expérience, la théologie en expérience, en pratique. Mmh. Et ça, je trouve... Et alors, je voudrais juste revenir sur le sacrement de mariage parce que je trouve qu'il y a une... Il n'y a pas d'antagonisme entre le sacrement de mariage et nous sommes dans un ordre, puisque c'est un sacrement, le sacrement de l'ordre. Et je trouve que j'ai cru comprendre que ça avait été bénéfique pour Guy et Madeleine, mais pour nous, je trouve que c'est un épanouissement même du couple. C'est-à-dire que ça nous donne c'est pas de la hauteur, pas au sens orgueilleux. Notre vie, on la vit différemment parce que cette conjugaison des deux sacrements est extraordinaire, je trouve. C'est-à-dire, ils se fécondent, ils se nourrissent l'un et l'autre. Et c'est vraiment quelque chose de... Et on prend conscience, comme a dit Guy, de notre propre sacrement de mariage en vivant le sacrement de l'ordre. Et ce service, puisque diakonos, c'est le service, service, il l'a très bien expliqué, on a tout de suite envie d'être à l'écoute et au service de celle qui partage notre vie. Donc, je ne sais pas si...
Si, oui. je vous remercie. On va faire une pause musicale et puis nous nous retrouvons juste après. Je vous propose d'écouter « Écoute, ton Dieu t'appelle ». Voilà, et nous nous retrouvons Guy et Marie-Madeleine de Belair et Daniel et Anne Facerias.
Écoute ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Le couple et le diaconat, c'est le sujet dont nous parlons aujourd'hui dans Vivante Église. Est-ce qu'ils font bon ménage? On pourrait même se poser cette question un peu provocatrice. Daniel Fasarias, vous êtes diacre permanent depuis 2019. Guy de Bélair, vous avez été ordonné en 2020. Vous êtes chacun accompagné de vos épouses respectives, Anne et Marie-Madeleine. Alors, après l'appel au diaconat dont nous avons parlé, nous avons aussi parlé de ces deux années de prédiscernement. Poursuivons un petit peu sur cette formation et notamment sur le contenu de la formation. Qu'est-ce que vous avez précisément reçu, Daniel Fasarias?
Alors, il y a trois ans, les trois premières années, une fois qu'on a fait le discernement, on rentre en première année. Il y a deux cycles, en fait. Hein, la première année du premier cycle. Et là, il y a une véritable remise à niveau. Et c'est bien fait. C'est essentiellement par les enseignants de l'Institut catholique et de l'IERP que c'est dispensé. Et donc, on reprend les fondamentaux de la théologie, en fait. C'est-à-dire à la fois la théologie spirituelle, on pourrait dire, et la théologie morale, en fait. Donc, parce qu'on va être obligé de discerner après, dans notre deuxième année de cycle, sur les questions éthiques, sur les questions de couple, enfin de mariage, préparation au mariage, au baptême, etc. Donc, en fait, toute la première année, on a eu, sur la Genèse, sur l'Immaculée Conception, donc avec tout était bien structuré, et de voir un peu la Christologie, comment vraiment bien comprendre la Christologie. Et ensuite, il y a eu un aspect aussi sur la vie sacramentelle, donc tout ça en lien avec la doctrine de l'Église, en fait.
En fait, c'est un peu le parcours du catéchisme de l'Église
catholique.
Oui,
mais approfondi.
D'accord.
Avec beaucoup de... On a eu des grands... On a eu Jean-Miguel Garrigue, par exemple. On a eu des choses d'assez haut niveau, oui. Moi, que j'ai apprécié.
Pour la formation.
La formation.
Ah, oui. Marie-Madeleine de Bélair, vous avez aussi suivi donc, cette formation. Qu'est-ce qui vous a nourri et qu'est-ce qui vous a manqué, à l'inverse?
Ça m'a nourri parce que ça a complété... certainement des manques, mais ce qui m'a manqué, c'est que j'aurais aimé qu'on parle des ordres religieux, des grands ordres religieux, à travers le temps, et qu'est-ce que ces ordres religieux nous apportent, nous, et aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie, vers quoi aller? Et ça, je trouve, c'est dommage que personne n'en ait parlé.
C'est vrai, on avait suggéré les écoles de spiritualité.
L'oraison, oui, les carmes.
Les carmes, oui. Voilà. Je trouve que c'est quelque chose qui manque, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, il y a un certain nombre de diacres qui aiment bien se ressourcer auprès d'une spiritualité. Ouais. Il y en a qui sont proches des jésuites, ils sont ignatiens. Puis il y en a d'autres qui vont être plus proches des carmes, des dominicains, du Prado aussi, dernièrement. Il y en a qui ont fait une retraite avec voilà. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, qui serait important à développer. On a eu des cours, moi je me souviens d'un cours sur les prophètes,
oui,
magnifique. Oui. C'était vraiment, ça nous a ouvert vraiment... moi, ça m'a vraiment touché profondément, les prophètes. C'est des hommes courageux qui ont dit les choses.
On a aussi le père de l'Arbre, qui est maintenant évêque d'Aix-en-Provence. Vous avez fait un cours sur les diacres au début de l'Église, sur le rôle des diacres. Je sais pas si
oui, parce que c'est un rôle qui a été abandonné.
Voilà.
Et puis après,
vous parlez des 60 ans du renouveau.
Oui, de la restauration.
De la restauration. Ouais. En fait, le diacre était plus important que le prêtre.
Dans les premiers temps, oui.
Il y avait l'évêque et qu'il y avait ses diacres qui faisaient fonctionner toute l'Église. Et c'était l'évêque qui célébrait la messe. C'est-à-dire que et le diacre était au service dans multifonctions. Et les prêtres sont venus après pour se substituer à l'évêque quand ils ne pouvaient pas se déplacer. Mais c'était toujours les diacres qui faisaient le travail. Et d'ailleurs, plusieurs papes étaient diacres et sans être même prêtres.
Ah oui.
Donc on les ordonnait après parce qu'ils étaient au courant des affaires, parce qu'ils étaient très proches. Il y a l'histoire du diacre Laurent, la fameuse, qui menait les affaires de l'Église. C'était lui qui... Et voilà, c'est...
Là, vous avez suivi, vous l'avez dit tout à l'heure, une formation, donc cette formation en équipe. Qu'est-ce que ça vous a apporté de cheminer ensemble?
Beaucoup de joie.
Beaucoup de joie, Anne Fassarias.
Oui. Beaucoup de joie, des amitiés qui naissent, qui s'enracinent. Et puis, je dirais qu'ils sont solides. On sait que Daniel a été ordonné, il y avait 5 diacres le même jour. Et c'est vrai que c'était une fête
qui nous a soudés.
Ouais. Ça nous a complètement soudés. Et puis après, on est
resté... C'est une nouvelle famille, en fait.
Voilà, c'est une nouvelle famille. On a un WhatsApp des 5 diacres et des épouses. Ouais. Et on partage régulièrement et on se rencontre. Et c'est vraiment... C'est formidable, quoi.
Oui, c'est une amitié profonde.
Ce sont des amitiés qui sont basées sur le Christ.
C'est ça.
Oui.
Alors, l'amitié, ça passe tout de suite très bien, très facilement.
C'est ça.
Même si on est différent par l'âge, par le milieu.
C'est ça.
On a de solides amitiés. Et du coup, comme tu disais, on se donne des nouvelles. Il y a une naissance, il y a un déménagement, voilà.
C'est une famille.
Une nouvelle famille.
Et
de solides amitiés.
On a des petites fraternités diaconales qui existent.
Ah oui.
Et donc, ils regroupent des diacres sur un doyenné ou sur un secteur. Et on se retrouve une fois tous les deux, trois mois, nous. C'est à peu près tous les trois mois. Donc, 4 fois par an, on se retrouve autour d'un repas. Et puis, chacun partage ce qu'il vit dans sa paroisse ou dans son... au niveau du diocèse, ce qu'il fait. Voilà, donc c'est des moments fraternels.
Parfois, lorsqu'un est empêché pour un baptême ou pour un mariage, il y a une entraide entre nous.
Oui. Oui. Alors, c'est le texte qu'on lit sur le diaconat sur le site de l'Église catholique indique « Par son ordination, le diacre reçoit la grâce de l'Esprit-Saint qui l'aide, le guide et le fortifie pour accomplir la triple mission qui lui est confiée, manifester l'amour du Christ par le service de la liturgie, de la parole et de la charité. » Quelle mission respective vous a été confiée par l'Église ?
Alors nous, très rapidement, je crois que c'était une demande conjointe de nous deux, c'était d'avoir un service ensemble. Alors Monseigneur Legal, on a été ordonné par Monseigneur Legal, moi j'ai été ordonné par Monseigneur Legal, et donc il nous a confié, il nous a dit, écoutez, votre service, ça va être dans la pastorale de la famille et du mariage. Donc, ça allait tout à fait dans le sens de notre désir et de servir la famille. Et puis, on a eu très vite, au niveau de la paroisse, on nous a demandé de nous occuper de l'équipe de préparation au mariage sur notre paroisse. Donc, tout ça allait dans le même sens, je dirais.
Oui, c'était logique, finalement.
Ça unifiait bien tout. Et on a toujours été ensemble. Précédemment, on s'occupait des communautés Foi et Lumière sur la région. Donc, on a toujours été... On aime être ensemble et je crois qu'on s'équilibre mutuellement. Et moi, le Seigneur a de l'humour parce que parfois je décide trop rapidement, tout seul. Et après ça, je me rends compte que j'aurais dû en parler. Bête. J'aurais dû en parler à ma femme parce que là, j'ai fait une bêtise. Bon, alors, il faut rattraper. Voilà. Donc, je pense que souvent les gens... Et je me souviens très bien, d'ailleurs, comme on nous a dit, c'est une mission commune que vous avez ensemble.
Et ça, c'est un témoignage important dans notre monde encore aujourd'hui.
Tout à fait. C'est un témoignage d'être chrétien en couple vis-à-vis des autres. De durer dans le temps que notre couple dure.
Bien sûr.
Nos fiancés sont sidérés. Oh, 37 ans de mariage. Mais vous avez fait comment?
Vous avez pris
jour après jour.
Vous avez pris des médicaments.
Daniel... Vous avez bu un peu trop.
Plein d'apéro pour tenir. Voilà. Daniel et Anne Fassarias, dans la mission qui vous a été confiée, Daniel, lors de votre ordination, comment elle rayonne aussi sur le monde avec Anne?
Oui, puisque en fait, c'était très simple pour l'évêque, puisqu'il m'a nommé aumônier des artistes, mais en même temps, c'est la diaconie de la beauté, donc nous nous occupons des artistes et c'est complémentaire. L'aumônerie, ce n'est pas tellement la même chose, puisque c'est plutôt une relation personnelle avec les artistes que l'aumônier a, alors que le mouvement de la diaconie, c'est un mouvement, c'est-à-dire qui rapproche les artistes de l'Église, etc. Mais on est ensemble la preuve, puisque à toutes les tous les événements qu'Anne organise, je suis à peu près présent à...
Le plus possible.
Le plus possible.
Parfois, il a des obsèques qui empêchent, mais souvent, oui.
Quels sont les points de vigilance pour maintenir, première, comme vous le disiez, Guy de Bélair, cette vie conjugale par rapport à votre engagement dans le diaconat?
L'emploi du temps.
Ah.
Il faut que nous soyons vigilantes, je pense, les épouses, de dire attention, là, ça en fait trop, attention, tu n'arriveras pas à la fin de la journée, c'est trop.
Non.
Alors, je pense la vigilance, nous, c'est au sein de la paroisse. Guy a né à 72-75 enterrements.
Il
y a des moments où il faut savoir dire stop.
Oui. Savoir
Et je
dire
pense
non.
que c'est nous, les épouses, qui sommes peut-être là pour dire ça fait
oui,
trop.
On est au même régime.
Oui. Ah, aussi, vous dites.
On est très sollicités. Ouais.
Je crois qu'ils sont au même régime, tous les deux.
Oui.
Parce que le doyenné, il n'y a qu'un seul diacre. Donc.
Oui, vous êtes que Dieu.
Ça fait beaucoup.
Diacre.
Donc Anne Daniel, aussi, vous êtes le maître du temps et le maître de l'agenda.
Alors quand je suis avec mon mari, quand je suis avec Daniel, je suis vraiment le maître du temps et je fais passer régulièrement cet apostolat autour de cette œuvre qui est quand même commune.
Oui,
donc moi, je veux bien porter le plus possible de choses, mais ça reste quand même une mission commune. Autour de la diaconie de la beauté. Et donc, je n'hésite pas à imposer, parce qu'à la différence peut-être de nos amis, c'est que nous, on n'est pas tout le temps ensemble. Donc, on peut avoir des périodes où pendant 15 jours, par exemple, on ne va pas se revoir, ou parce que je suis à Rome pour préparer l'événement de Rome, ou je suis aux extrémités de la Terre pour préparer le festival et tout. Et quand on se retrouve, c'est quand même important de donner des priorités.
Oui.
Comme on le disait tout à l'heure, à la fois au niveau du couple et à la fois au niveau de cette œuvre commune. Mmh. Même si le diaconat est une œuvre commune aussi, bien évidemment, un engagement commun.
Oui, parce que vous le disiez, l'épouse doit donner son accord, son oui. Voilà, avant l'ordination de son mari.
Mais par contre, quand ça arrive très régulièrement où Daniel reste seul à Seille, là où nous habitons, avec l'engagement dans la paroisse et dans le doyenné, et là, quand il est seul, moi, je trouve que c'est très beau qu'il puisse rendre service aux prêtres.
D'avoir un peu plus de disponibilité.
D'avoir un peu plus de disponibilité, d'aller régulièrement à la rencontre des prêtres, le repas fraternel une fois par semaine. Et tout, bien sûr qu'il faut encourager. Mais je pense qu'après, il y a un équilibre à trouver.
Mais je vois, par exemple, on a une rencontre hebdomadaire de prêtres avec un repas. Mais le prêtre invite, le curé nous invite Anne aussi. L'épouse est invitée en priorité.
D'accord.
Donc c'est pas viens manger avec nous et laisse-la.
Laisse-la en punition chez
au fourneau.
Vous, c'est pas ça.
Ah, vous êtes plus avancé que nous parce que nous, les rencontres hebdomadaires qu'on a à peu près régulièrement avec les prêtres de notre paroisse et puis les diacres, puisqu'on est deux diacres et il y a trois prêtres et deux diacres. C'est sans la présence de l'épouse.
Bon.
Mais quand même, le repas, c'est à la maison parce qu'on tourne, bien sûr, tu es là.
Donc là, c'est normal.
Oui.
Un dernier mot pour conclure sur les fruits de ce diaconat permanent sur votre couple. Vous nous en avez un petit peu parlé avant la pause musicale, Daniel Fasserias, mais peut-être un mot pour conclure.
Moi, j'ai souvent touché la présence de l'Esprit-Saint. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, plus on se donne au Seigneur et plus le Seigneur nous montre son visage. Et donc, c'est merveilleux. On ne peut que rendre grâce et continuer ce chemin qui n'est pas toujours facile, mais qui prépare cette grande éternité. Et voilà, c'est un très beau chemin.
Guy et Marie-Madeleine.
Pour moi, c'est comme une route qui s'aplanit au fur et à mesure du temps. Et ce qui me semblait très compliqué et impossible devient tout à fait réaliste, pratique, possible, grâce au diaconat, grâce à notre sacrement de mariage. Voilà.
Moi, j'aime bien l'image de la cordée. On fait une cordée ensemble. Déjà, dans le mariage, on fait une cordée pour monter vers le ciel, mais ça continue avec le diaconat. C'est pas... ce n'est pas antagoniste, au contraire, le Seigneur nous unifie. Je le vois, et ça resplendit, enfin ça doit resplendir sur la famille, hein, sur les enfants, et puis...
Ça rejaillit forcément.
C'est vrai qu'il y a cette dimension d'unité est importante. Je trouve que un diaconat réussi, enfin, la vie d'un diacre réussi, c'est lorsqu'aussi le sacrement de mariage est enrichi par le diaconat, et vice-versa. C'est l'un enrichit l'autre et nourrit l'autre. Et je pense qu'on ne, si on est épanoui, le couple doit s'épanouir. Si le couple ne s'ouvre pas,
c'est mauvais signe.
C'est que, comme disait Marie-Madeleine,
quelque chose est mangé.
C'est-à-dire le diaconat nous mange la vie de couple. Ça, c'est...
Merci beaucoup pour vos témoignages aujourd'hui. Merci Guy et Marie-Madeleine de Belair. Merci Daniel et Anne Fasserias. Voilà, dans ce beau témoignage sur le couple et le diaconat permanent.